C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dantzig. Auteur Vladimir Kouzmine, 1872-1936. Poète, romancier, compositeur de musique, russe, homosexuel. Œuvre Les Ailes, roman, 1906, première traduction française en 2000 par Bernard Crèze. Personnage Vania. La littérature révèle à la société les injustices qu'elle commet et se cache. En Russie, il a fallu un romancier, Dimitri Grigorovitch, pour que, vers 1840, on commence à se rendre compte de l'abjection du servage, lequel a fini par être aboli en 1861. Aucun romancier n'a montré aux Russes ce qu'est l'antisémitisme, en tout cas pas l'ami de Grigorovitch, Dostoïevski, antisémite rageur. Un roman, pas deux, pas dix, pas cent, un seul, a montré l'homosexualité à la Russie, si souvent barbare sur la question. Et ce n'est pas dans la Russie contemporaine, non, puisque Poutine a non seulement pris les décrets homophobes que l'on connaît, mais qui, au récent sommet du G20 de Tokyo, a éprouvé le besoin de parler de l'homosexualité, non pas pour critiquer sa vieille ennemie, la Tchétchénie, qui persécute les gays, mais pour dire que c'est un vice agressif, si, si, agressif. Ce roman a été publié sous les tsars, dans une période de relative libéralisation après la révolution de 1905, c'est donc Les Ailes de Vladimir Kouzmine. Kouzmine n'est pas le plus connu des écrivains russes. Si l'on cherche son nom sur un moteur de recherche, on trouve un chanteur de rock soviétique et un tueur en série des années 1980 du même nom, mais rien sur lui, absence exceptionnelle. Il a pourtant compté, non pas tant parce qu'il aurait été au premier plan des lettres russes, il est surtout connu pour son art de musicien et de librettiste, mais pour Les Ailes. Ce roman a ceci d'extraordinaire qu'il est sans doute la première fiction russe à avoir un gay pour personnage principal. Le mot n'existait pas et n'apparaît bien sûr pas dans le livre, mais pas davantage le mot alors assez récent d'homosexualité. Tout est suggéré dans ce roman allusif et délicat. Kouzmine a pourtant été plus courageux que tant, et par exemple Ian Foster, qui vivait dans un pays plus libre, l'Angleterre, et a écrit vers la même époque un roman à sujet gay, Maurice, mais ne l'a laissé publier que posthume. Kouzmine avait 34 ans. Son livre a fait scandale et était très mal reçu par la critique, le seul à l'avoir estimé, le qualifiant même de merveille, est le grand poète Alexandre Bloch. Qui est son personnage principal, Vania? Pour en parler, je reçois Bernard Crèze, traducteur des Ailes, aux éditions Ombre. Bernard Crèze, à quoi ressemble physiquement ce Vania qui est orphelin et vit à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle?
Ben, c'est un bel adolescent, on le sait, parce que lorsqu'il est en vacances au bord de la Volga, un camarade lui dit qu'il est très beau. Il a les cheveux blonds, mais on sait très peu de choses, dans le fond, sur son physique. Il est très jeune. C'est à peu près tout ce que l'on sait.
On le voit tout de même évoluer au fil du roman, à nager physiquement, parce que le roman s'étale sur plusieurs années, n'est-ce pas ?
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, pas forcément. C'est très peu clair, justement, la chronologie du roman. On sait qu'après les vacances d'été, où son professeur de grec le convainc d'avoir une autre vie, de changer de vie, de changer de milieu, notamment au nom de la culture grecque, la culture italienne, etc., etc. On ne sait pas exactement quand il va justement en Italie avec l'abbé, où il va retrouver l'abbé Maury. Mais non, apparemment non. Il aurait même, si on suit le roman, abandonné le lycée, abandonné ses études. Donc il est très très jeune.
Alors son nom complet est Ivan Petrovitch Smurov.
Oui.
Le diminutif Vania n'est pas rare en Russie. Et je pense qu'il faut n'y voir aucune allusion à l'oncle Vania de Tchekhov qui date de 9 ans avant.
Non, aucune. C'est le prénom le plus courant. En revanche, ce que vous dites est intéressant parce que Tchekhov meurt en 1904. Et tout à coup, en 1905, tout à coup, Kouzmine publie justement, enfin après 1905, publie son œuvre. Et tout d'un coup, justement, il y a toute une autre, un autre monde qui tout d'un coup va s'ouvrir. Et Tchekhov, c'est la fin de la Russie du 19e qui annonce la révolution de 1905, qui a lieu en arrière-plan, justement, de tout cela.
Ah, enfin, qui a lieu en arrière-plan, mais on ne la voit pas dans le roman.
Du tout.
Pas du tout, hein, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez évoqué au début, Bernard Crèze, le professeur de grec de Vania, à deux reprises au début du livre, lui conseille de faire la connaissance d'un autre personnage très important du roman.
C'est un personnage fondamental et que l'on voit à peine finalement, qui est un certain Stroop, qui est à la fois russe et anglais, un esthète qui vit à Saint-Pétersbourg et qui fascine le jeune Vania, mais il ne comprend pas trop qui il est. Il interroge ses proches qui il est, et alors on fait un tas d'allusions, mais on ne dit pas qui il est. Et il n'est pas comme les autres, n'est-ce pas? Il n'est pas marié, il est différent, il a sa vie. Et peu à peu, Vania va découvrir quelle est sa vie, justement.
Au début, Vania, c'est assez intéressant, on entend parler, ça m'a assez frappé, on entend parler pour des questions vestimentaires. Et Stroop est élégant, il est coquet, et je pense que ça révèle aussi une attirance par l'attention à soi chez les gays qui est souvent méconnue chez les hétérosexuels. Il y a parfois une espèce d'attirance qui se fait par là aussi.
Oui, il va arriver dans le salon de l'appartement de Stroop, où il n'y a que des hommes. Il y a un décor magnifique, un décor plutôt occidental, on voit tout à fait le décor début de siècle. Les hommes, ils sentent le parfum peau d'Espagne, qui existe véritablement chez Santa Maria Novella. Et donc c'est très intéressant, un parfum italien. Et tout de suite, il y a une connotation italienne, un parfum occidental, il se trouve dans un autre milieu.
Quel est le milieu, on ne le dit pas je crois d'où il vient, mais non. Le milieu de sa famille à Pétersbourg, c'est quoi son oncle, ça n'est pas dit.
On ne le sait pas, il y a un oncle, non un frère de sa tante qui a été comptable, escroc, qui a fait de la prison, qui vit là, mais dans le fond on ne sait pas, c'est ce qu'on appellerait disons des petits bourgeois aisés, relativement aisés.
Alors ce Stroop est un homme de conversation. Comme le Lord Henry Wotton du portrait de Dorian Gray, dont nous avons parlé récemment dans un autre personnage en personne. Et d'ailleurs, lui aussi est de nationalité britannique. Et il me semble que sa conversation fascine Vania comme celle de Lord Wotton fascinait Dorian Gray.
Mais certainement. Mais vous savez qu'on appelait Kuzmin l'Oscar Wilde le russe. Et donc,
c'est pas une légende qui est venue après, ça? On l'appelait à l'époque comme ça?
On l'appelait comme ça. Lui-même ne parle pas d'Oscar Wilde dans son œuvre, me semble-t-il, ni dans ses journaux, mais il le connaissait, à l'évidence, il le connaissait. Il y avait chez Kuzmin, vous parliez des vêtements, lui-même était soit habillé en un esthète, comme un esthète occidental, on disait qu'il avait 365 gilets, mais il a rectifié en disant qu'il n'en avait que 12. Il avait, et on le voit très bien dans le roman, il avait, et c'est ce que vit Vania, il avait soit l'attirance pour la Russie ancienne, les vieux croyants, les icônes, les anciens livres, et d'ailleurs, lorsqu'il attend Stroop chez un libraire qui a des livres très anciens, qu'il entend la conversation avec un certain Fyodor, qui est un garçon de bain, et il va comprendre qu'il est l'amant de Stroop. En percevant une conversation derrière un mur. Il y a cela d'une part, et d'autre part, il y a un autre pôle, qui est le pôle, on va dire, occidental, le pôle italien, qui est autour de Stroop.
La conversation est très importante, car chez Stroop, on parle de Marlowe, de Swinburne, on écoute de la musique. Enfin, c'est un monde nouveau qui se déploie devant Vania, qui lui-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, se déploie lui aussi grâce à ça.
Mais oui, tout à fait. On parle peinture occidentale, on parle musique, on fait de la musique même. Et à un moment, dans le salon, quelqu'un chante en étant au piano, et c'est en fait une chanson d'Alexandrie, de Kuzmin, qui est dans le texte. Vous avez dit qu'il avait fait de la musique. Effectivement, il était compositeur aussi. Donc, il y a cette ambiance très avant-gardiste, avec de la musique de Debussy, de Stravinsky, enfin tous ces gens qui font l'avant-garde même, on peut dire, européenne à l'époque.
Alors, les mêmes fenêtres s'ouvrent pour les mêmes réprouvés. Dans le salon de Stroop, la Grèce antique est désignée comme un idéal. C'était très répandu dans l'Europe de ce moment-là.
Tout à fait. Comme un idéal pour Kuzmin lui-même. Et le premier à ouvrir les yeux du jeune Vania, c'est son professeur de grec, qui lui dit justement d'apprendre le grec, surtout de ne pas le lire en traduction. Il y a une tirade contre les traducteurs, absolument terrible de la part de son professeur de grec. Mais justement, tout d'un coup, il va lui ouvrir cette civilisation à laquelle était attaché Kouzmine, qui est allé à Alexandrie. Et lorsqu'il va à Alexandrie, c'est pas tellement, il me semble, l'Égypte ancienne qu'il va voir, c'est vraiment l'Alexandrie grecque.
Il a connu Kadhafi ?
Non. Non, je me suis posé la question. Enfin, en tout cas, s'il l'a croisé, il n'en dit pas mot.
Et évidemment, la Grèce, nous sommes des Hellènes, dit un des personnages chez Stroop. Et la Grèce sert aussi à ouvrir une porte de placard, si je puis dire, parce que c'est ce même personnage qui dit ça, qui conteste le grand lieu commun du temps et qui a duré si longtemps, qui est selon lequel l'homosexualité est antinaturelle. Et donc, c'est comme ça que Vania aussi entend parler de ça.
Oui, il entend. Il entend cela. Et en plus, une femme, lorsqu'il est en vacances au bord de la Volga, lui fait une déclaration et elle essaye de le dépuceler, on va dire. Franchement, il la repousse. Mais elle-même lui a dit, mais l'amour n'est pas utilitaire. L'amour peut-être peut avoir une valeur en soi. Et c'est également ce que dit son professeur de grec. Et tout le milieu dans lequel il baigne, bien entendu.
Elle dit, cette femme, d'ailleurs c'est assez malin probablement de la part de Kouzmine d'avoir mis ses paroles dans la bouche d'une femme, elle lui fait dire à Vania, les hommes, n'est-ce pas, aiment les femmes et les femmes les hommes, mais il arrive, dit-on, qu'une femme aime une femme ou un homme un autre homme. Cela n'est pas difficile à croire, Dieu ne peut-il pas piquer également cette écharde dans le cœur de l'homme? Il est malaisé, Vania, d'aller à l'encontre de ce qui transperce le cœur, et peut-être même est-ce un péché.
Oui, tout à fait.
Elle inverse la charge de la faute.
Oui, complètement. C'est intéressant parce que Kouzmine, justement, il est aussi très croyant, il est très attaché à la Sainte Russie, et il a cette ambiguïté en lui.
Qu'il a donné à son personnage, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez m'expliquer ce que c'est exactement? Car on voit que Vania est intéressée par les vieilles croyances. Qu'est-ce que c'est que les vieux croyants?
C'est un schisme qui a eu lieu, pour faire simple, après Pierre le Grand, qui a fait des réformes de l'Église. Et c'est un schisme qui restait très attaché à une Église qui ne serait pas centralisée, on va dire, qui ne serait pas politisée. Et les vieux croyances ont été vraiment réprimées par Pierre le Grand, et même encore au XIXe siècle. Et ils étaient en quelque sorte des dissidents de l'Église. Ils avaient été admis très peu de temps auparavant. Auparavant, je veux dire avant, au moment où Kouzmine écrivait son roman.
Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un contrepoint assez curieux avec l'esthétisme, l'occidentalisme des idées de Vania, qui porte ça en lui.
Oui, tout à fait. Mais vous rappelez, lorsqu'il va en vacances en été au bord de la Volga, il est chez des vieux croyants, justement. Avec toutes les traditions des vieux croyants, ça va être une expérience. Est-ce qu'il va se convertir? Mais non.
On voit passer une femme qui est amoureuse de Stroop, une certaine Nata, et qu'il a aussi, d'ailleurs, comme dans le portrait de Dorian Gray, passé ne reste pas, car les femmes restent assez peu dans le roman de Kouzmine. Et quand même, ça va jusqu'à la consommation physique, même si, encore une fois, le livre est allusif. Vous citiez Fiodor. Vania a une aventure avec Fiodor.
Je ne l'ai pas perçu.
Ah non, moi je l'ai lu comme ça.
Mais c'est intéressant parce que c'est tellement allusif que justement il y a des allusions qu'un lecteur peut voir et un autre ne pas voir. Et vous savez qu'on a traité ce roman, certains critiques ont traité ce roman de pornographique. Alors vraiment, on a beau.
Ah non, c'est dément parce que vraiment, voilà, c'est de l'ordre de l'interprétation.
Tout est allusion.
Parce que quand même, que ce Fiodor même, il me semblait que non seulement Vania couchait avec lui, mais qu'il y avait une indication qui nous disait que Fiodor était aussi l'amant de Stroop, car quand Vania s'approche, il sent dans ses cheveux le parfum de Stroop.
Le fameux pot d'Espagne, justement, qui est un parfum très fort. Écoutez. Fiodor, à l'origine, est un garçon de bain. Donc, quand il perçoit la conversation derrière le mur, et qu'il est chez l'antiquaire, et en attendant Stroop, Fiodor l'exprime de façon très, très cachée, mais enfin, c'est un garçon de bain qui s'est occupé de Stroop, et les bains publics étaient des grands lieux de drague homosexuels à l'époque.
Et ce Fiodor a une fiancée qui se suicide. Ida Goldberg.
Oui, c'est un Ida Goldberg, mais elle fait fiancée, non, parce qu'elle est amoureuse de Stroop aussi.
Elle est amoureuse de Stroop aussi, c'est vrai. Mais alors, pourquoi se suicide-t-elle? Ça n'est pas très explicite.
Parce qu'elle a compris que Stroop n'était pas pour elle. Enfin, me semble-t-il. C'est ce que moi, j'ai compris. C'est ce qui fait un grand scandale. Et après, je trouve, va en Italie.
Elle manque d'esprit par rapport à Maria, la première femme qui expliquait la vie à
Vania. Oui, complètement, complètement.
À Vania. À propos des hommes qui couchent hors mariage, un personnage du livre se demande si c'est la même chose que de coucher avec son épouse. Et quelqu'un lui dit « question d'imagination ». Eh ben, je crois que Kouzmine a révélé là quelque chose très délicatement, c'est que tout ça est une question d'imagination, c'est-à-dire de fantasme.
Oui.
Et c'est à ça aussi que s'affronte Vania. Parce que Vania se demande un peu ce qu'il est. Enfin, il n'y a pas non plus de problème de conscience de sa part.
Non,
il a des questions, mais pas des problèmes de conscience.
Il a des questions typiquement adolescentes, qui ne sait pas ce que c'est du tout, je crois, très sincèrement. Il est très, très naïf, il n'a pas consommé, enfin, il ne connaît pas les choses.
Donc vous pensez qu'il ne couche pas avec Fiodor?
Ah, je ne crois pas, non. Mais je me trompe peut-être.
Non, c'est une interprétation, mais effectivement, vous l'avez dit, c'est un roman très allusif. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait fait scandale montre bien l'état de préjugé de la Russie de son temps, parce que pour qu'un livre pareil fasse scandale...
Complètement, c'est... Non, mais vous l'avez cité, que Bloch l'a soutenu, et Bloch cite justement dans l'article où il soutient complètement Kouzmine, que d'aucuns s'imaginent que c'est un roman qui veut être un tract, qui veut pour la libération sexuelle. Peut-être était cela aussi à l'époque, mais bon, quand on le lit maintenant, non. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que l'homosexualité était complètement rejetée. Même historiquement, on n'en parlait pas, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc,
on l'effaçait.
C'est assez héroïque de la part de Kouzmine, aussi allusif soit ce roman, de l'avoir écrit.
Complètement. C'est le premier, non seulement à avoir écrit un roman homosexuel, mais à s'être assumé en tant que tel. C'est caché absolument pas.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la musique du film « Les ailes, Wings » de William Wellman en 1927. C'est un film de guerre et d'aviation, le premier à avoir reçu l'Oscar du meilleur film, mais aussi qui reste fameux pour une scène d'homo-érotisme où un aviateur embrasse un autre aviateur mourant. Bernard Crèze, le roman de Kouzmine, Les ailes, s'achève en Italie où Stroop se trouve avec des amis et son personnage principal, Vania, y vient lui aussi avec son professeur de grec dont nous avons déjà parlé.
Oui, lorsqu'il est en vacances, son professeur de grec dit qu'il va démissionner, qu'il a fait un petit héritage et qu'il va aller en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que même le nom des personnages que rencontre Vania, par exemple le fameux abbé Mori, a existé. Et Kouzmine, dans son journal, parle de l'abbé Mori. C'est son nom. Et c'est l'abbé Mori qui lui a fait connaître Florence, notamment, qui était un haut lieu pour les Russes. Vous savez que Dostoïevski y a vécu, et lui aussi, mais évidemment pas tout à fait dans le même genre d'ambiance.
Non, c'est vrai, vous avez raison, l'Italie et les Russes, c'était une chose très importante qu'on oublie un peu. On pense aux Anglais, aux Français, voilà. Mais on oublie les Russes. Mais Gorki lui-même a vécu en Italie pendant plusieurs années.
Oui, donc il y avait la fameuse maison Demidov à Florence, qui existe toujours.
Mais enfin, ça c'était antérieur.
Oui, bien entendu, c'était antérieur, c'était à l'époque de Dostoïevski, vous avez tout à fait raison. Mais je veux dire par là qu'il y avait une présence des Russes quand même.
Il y avait une présence des Russes. Oui. Et donc, en Italie, le professeur de grec, pour la troisième fois, comme un Saint-Pierre bénéfique, pousse Vania vers Stroop, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et il se retrouve à une soirée, où il y a beaucoup de monde, c'est une soirée très mondaine, très chic, etc. Et tout à coup, Vania voit arriver au loin Stroop, il ne savait pas qu'il allait venir, et il veut s'enfuir, mais il ne s'enfuit pas. À la dernière seconde, il ne s'enfuit pas. Et Stroop lui demande s'il veut partir avec lui.
On va donner la réponse tout à l'heure. Avant ça, il y a une conversation où Stroop prononce une phrase qui explique le titre du livre.
Tout à fait. En un mot, il dit la liberté est sous-entendue la liberté des mœurs, la liberté sexuelle, la liberté d'esprit donne des ailes. Ce que lui avait déjà dit son professeur de grec précédemment.
Encore un petit effort et des ailes vous pousseront, lui dit-il.
Et le petit effort, c'est-à-dire assumez-vous.
C'est ça. Encore une fois, il faut dire que même entre eux, les personnages se parlent de manière allusive. Le mot de sexe, le mot d'homosexualité, tout ça n'est jamais prononcé.
Jamais prononcé. D'ailleurs, on ne peut comprendre ce livre que si on voit ce qu'il y a dessous.
Et d'ailleurs, je crois aussi au début, quand il rencontre, Vania rencontre Stroop pour la première fois à l'opéra, je crois.
Oui, il se rencontre à l'opéra, oui.
Et il y a...
Pour Carmen.
C'est ça. Et il y a juste une mention que je cite encore une fois dans votre traduction. Vania dit une vacherie sur un autre personnage, il éclate de rire, puis on ne sait pour quelle raison, il saisit la main de Stroop. Donc, au début, il y a quand même ce geste de prendre la main.
Oui. Mais à l'évidence, il est fasciné. Donc, au début, il y a une attraction-répulsion, comme on dirait.
Il y a une répulsion?
Oui, parce qu'il le fuit d'une certaine façon. Il le fuit parce que dans le fond, il est tellement attiré par lui et par le milieu et par tout ce qu'il représente, qui est un contraste absolu avec son milieu familial, que il ne peut pas tout de suite accepter, il ne sait pas dans quoi il va mettre les pieds, mais il est tellement attiré par ça qu'il comprend aussi qu'il y a aussi une attirance sexuelle. Mais vous voyez, justement, à la fin, quand il dit à Stroop, partez.
Quel âge il a, ce Stroop? Ça n'est pas dit.
Jamais, j'ai encore vérifié, jamais.
Ça, hein.
On ne sait pas. C'est très
ni
curieux.
Son aspect physique d'ailleurs.
Non,
hein,
rien.
Enfin, on présume que c'est quand même un adulte. Qui aurait entre 40, 50, 60 ans, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, c'est un adulte, un être mûr.
Je veux l'imaginer comme Kouzmin.
C'est-à-dire, quel âge avait Kouzmin quand il a écrit le livre? Je l'ai dit, je crois, 34 ans, c'est ça?
72, il est en 1905, donc il avait 33 ans.
Hein. Oui, c'est ça.
Donc j'imagine à l'âge de Kouzmin.
D'accord.
D'ailleurs, je pense que Vania, c'est aussi un fantasme de Kouzmin, d'une certaine façon. Parce qu'on le sait, il le dit d'ailleurs très très ouvertement dans ce journal qu'il reçoit de très jeunes gens.
Et d'ailleurs, d'autres ont compris avant lui, puisque un cousin chez qui il loge au début à Pétersbourg, lui dit à Vania, ne te trahis pas. Comme s'il avait compris. Et d'ailleurs, Vania, au tout début, ne comprend pas. Lui dit, mais en quoi pourrais-je me trahir?
Mais oui. Mais rappelez-vous également l'oncle escroc qui vit chez sa tante, et qu'il y a Vania demande de l'argent à Stroop, et Vania lui dit, mais pourquoi m'en donnerait-il? Il t'en donnera, je le sais.
Ouais. Donc le livre pourrait aussi s'appeler Le secret de Polichinelle.
Oui.
Une chose extraordinaire, je trouve, et la plus singulière probablement au regard du sujet, est que ce roman a une fin heureuse. Or, dans ce temps-là, et plus encore dans un pays comme la Russie, l'homosexualité ne pouvait être racontée que dans le malheur. Et je trouve que c'est inouï dans ce roman pour ça.
Tout à fait. Il y a ça, plus les données biographiques de certains Russes. Il y a Tchaïkovski, qui serait quand même mort de façon douteuse, soit un suicide ou autre. Bon. D'ailleurs, vous avez encore actuellement en Russie, on nie l'homosexualité de Tchaïkovski, par exemple.
Oui, bien sûr.
Non. Non, c'est très intéressant. C'est une chose dont on ne parle pas, qui ne peut pas exister.
Il faut dire, très exactement, je dis qu'il y a eu une fin heureuse, mais dites-moi quelle est cette fin heureuse, très simple d'ailleurs.
Elle est très simple et très belle, donc, Vania dit à Stroop, partez.
Donc nous sommes en Italie, n'est-ce pas?
Oui, nous sommes en Italie, Stroop doit partir. Vania lui dit, partez, et il lui dit, je pars avec vous.
Il lui écrit un mot, c'est ça?
Non, il lui dit.
Il lui dit.
Il lui dit juste après.
Dit.
Oui, oui.
Et est-ce que ça n'est pas ça qui, plus que tout, Bernard Crèze a fait scandale? C'est-à-dire qu'il n'y ait ni culpabilité, ni punition.
C'est évident, oui. Je pense que même dans les milieux russisants français, Kouzmin continue de mettre mal à l'aise.
Encore maintenant?
Oui.
Ah bon?
Bien entendu.
Quand on prive un Russe d'une punition, il se plaint. Est-ce que d'abord le livre est traduit actuellement en Russie? Vous savez ça?
Publié, vous voulez dire.
Publié, pardon.
Oui.
Pas traduit, bien sûr.
Il l'est à plusieurs reprises.
Est-ce qu'il est mentionné dans les histoires de la littérature russe publiée en Russie?
Actuellement, je ne saurais le dire, mais il est étudié, il est publié, c'est vrai. Mais si vous regardez les histoires de la littérature précédente, non, on n'en parle pas.
Alors, sous l'Union soviétique, puisqu'évidemment, je l'ai dit, Kouzmine est mort en
36,
merci. L'homosexualité était considérée comme du décadentisme bourgeois.
Absolument.
Les bolcheviks ont d'abord décriminalisé. Mmh. Je pense que c'était moins par bonté que par idée que grâce au progrès du communisme, ce vice disparaîtrait. Et d'ailleurs, en 1934, Staline s'est dépêché de recriminaliser ça.
Oui, mais il y a une juste après la révolution, il y a quand même eu une véritable un mouvement de libération sexuelle réelle pour les femmes et les hommes.
Oui, le divorce, l'avortement aussi.
Qui a existé, mais très très vite, ça a été impossible. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que Kouzmine n'ait pas été réprimé, puisqu'il est mort en 36, mais son compagnon, qui vivait avec lui depuis des années, a été arrêté 2 ans plus tard, en 38.
Qui était? C'était quelqu'un qu'on connaît?
Oui, on le connaît très mal, c'est un Yurkun, et qui a été, tenez-vous bien, accusé de trotskisme de droite.
C'est bien.
Mais le pauvre a eu une balle dans la tête, immédiatement, oui.
D'ailleurs, je crois que quelques homosexuels russes ont beaucoup souffert, comme Yessénine, évidemment, dont on dit qu'il a été suicidé, mais on ne sait pas bien si c'était un suicide
ou un assassinat.
Oui. Trifonov a passé 4 ans dans un camp. Et Kouzmine, comment a-t-il vécu, lui? D'abord, de quoi vivait-il? Il vivait de sa musique et de ses travaux de musique?
Non.
Non,
non, non. De traduction, de livret d'opéra, il vivait très chichement, très, très chichement. Il vivait dans à l'époque soviétique, il vivait dans un appartement communautaire.
À Pétersbourg ou à Moscou? À Petrograd ou à Moscou?
À Leningrad. Non, il vivait très chichement. Non, très, très, très difficilement.
Et il avait une certaine notoriété?
Dans l'intelligentsia, oui, mais ailleurs, non. D'ailleurs, lorsqu'il est mort, on ne l'a cité que comme traducteur. On n'a même pas dit qu'il était poète, qu'il était écrivain, qu'il était traducteur, qu'il était compositeur. Et c'est quand même terrible, quoi.
Mais ce qui est même étonnant, moi j'ai découvert ce roman grâce à vous et à votre traduction, la traduction, je le répète, date maintenant de l'an 2000, c'est que même dans les histoires de la littérature française, quand il est question de ce sujet-là, il n'est jamais évoqué, ce qui est stupéfiant.
Et si vous regardez des histoires de la poésie russe publiées en France il y a longtemps, Kouzmine, on le cite à peine.
C'est son seul roman, n'est-ce pas?
Ah non, il a écrit beaucoup d'autres romans, des romans très savoureux d'ailleurs. Très intéressant.
Qui sont traduits ou
non,
pas du tout?
Ils ne sont pas traduits. Des nouvelles de lui sont traduites, mais les romans, non.
Bernard Crèze, pour finir, que vous a appris le personnage de Vania?
Eh bien, justement, cette découverte par les Russes de cette libération par la culture, par l'absence de conventions étouffantes qui existent en Russie.
C'était Personnage en personne, le 90e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Don Lockwood, créé par Stanley Donen dans Chantons sous la pluie.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Pierre Monteil.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay pour sa nouvelle émission sur la bande dessinée.
Tous les jours, paradis. De l'autre côté. De la rue.